Alors bonjour à tous, c'est un grand plaisir d'être ici. C'est un double plaisir parce que j'aime toujours visiter des nouvelles églises et puis y prêcher, y présenter les GB, puis partager la parole de Dieu. Et puis c'est un double plaisir parce que c'est aussi l'église où le pasteur est un ami, Benjamin. Et le seul regret que j'ai, c'est que je n'ai pas pu le battre au basket hier. Mais autrement, je suis très content d'être là et de quelque sorte le remplacer juste pour une fois. C'est toujours très agréable de partager cette confiance qu'on a pour partager la parole chez les uns et chez les autres. Les GBEU, on en a parlé, donc c'est les groupes bibliques des écoles et des universités. C'est-à-dire que c'est aussi dans les gymnases, les collèges, etc. En fonction du canton, vous choisissez le terme que vous voulez. C'est pour ça qu'on a mis école. Et aussi pour les universités. Et moi, je travaille sur le canton de Vaud, Valais et Fribourg. Donc en fait, il y en a un peu plus qu'à Lausanne. Ça fait 3 ans que je le fais maintenant. J'aime bien mon travail. C'est un grand sujet de joie. Et on voit depuis quelques années, je vais juste vous partager ce qui s'est passé sur les dernières années où moi j'étais là. Je suis rentré dans une dynamique qui était en route depuis déjà un petit peu de temps. Et on grandit encore et toujours dans ce désir de partager l'évangile sur les campus. Il ne s'agit pas de simplement faire des groupes qui lisent la Bible ensemble, une espèce de club biblique sur les campus ou une espèce de retrouvaille entre chrétiens et puis on est content entre nous. Il ne s'agit pas non plus de faire un groupe de jeunes, ni de faire une église de campus, mais il s'agit bien de se retrouver, d'ouvrir la parole et d'accueillir celles et ceux qui seraient curieux d'en savoir plus sur qui est Dieu. Et du coup, c'est un travail de longue haleine, parce qu'il faut encourager nos étudiants qui sont chrétiens, qui sont engagés. Il y en a une juste ici, qui a déjà beaucoup donné. Mais on a vraiment ce cœur de dire que chaque étudiant sur les campus ait l'occasion d'entendre parler de l'évangile de Jésus-Christ, d'y répondre et de devenir son disciple. Et ça, c'est ce qui nous fait vibrer. Et c'est pour ça que j'aime mon travail. Et je vais continuer encore un petit peu de temps. Et un dernier mot, c'est que si mon travail avec les GB est un travail de coordination, c'est parce que on veut que les étudiants soient à l'initiative de ce qui se passe sur les campus. Je ne connais pas tous les étudiants sur le campus. Je commence même à être vieux pour les étudiants sur les campus. Du coup, il y a un décalage qui se crée. Et nous, en fait, on est là en tant que staff. On est très peu de staff, mais on est là pour encourager les étudiants à grandir dans la foi et à grandir dans ce désir de partager aussi l'évangile. Donc, si vous avez désir d'en savoir plus, vous pouvez venir m'en parler un petit peu après. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que s'il y a deux aspects dans le ministère, celui d'être témoin, mais il y a aussi celui de grandir dans la foi. Notre vie de chrétien, c'est connaître Dieu et le faire connaître. Et là, ce matin, je vous propose plutôt cette partie de connaître Dieu. Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour vous aujourd'hui? Est-ce que le PowerPoint marche? Yes. On va commencer c'est le verset de départ pour cette prédication. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Qui se regarde dans la glace le matin avant de commencer sa journée? Personnellement, je ne le fais pas trop. Vous pouvez le voir à ma coupe de cheveux. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de très original, alors j'y passe pas trop de temps. Parfois, les seules choses que je décèle chez moi, ce sont les kilos en plus, des poils de barbe à raser, des cernes qui s'agrandissent et des cheveux blancs qui s'imposent. Oui, il y en a. Ils arrivent. Et il y a aussi des choses qui ne changent pas trop. Mon tir au basket contre Benjamin hier était absolument nul. J'ai à peu près l'endurance d'une huître. Je me coiffe toujours aussi mal. Et ma moustache ne tient jamais droite. Vous avez certainement d'autres choses qui vous sont bien personnelles. On ne va pas les dévoiler toutes là. Et qui pourraient être similaires à ce que je viens de décrire. Des choses qui changent un peu et des choses qui sont toujours les mêmes. Mais plus sérieusement, qui d'entre vous est lassé de vivre les mêmes luttes, les mêmes échecs, les mêmes défis jour après jour? Moi, je me fatigue moi-même sur certaines choses. Et là, on lit ce joli verset dans la Bible. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quelle belle promesse! Mais est-ce bien vrai? Est-ce que je peux dire tout à fait honnêtement que je suis une nouvelle créature? Peut-être que le lendemain de ma conversion, je peux avoir le souvenir d'un sentiment de nouveauté. Et je m'en souviens. Mais le surlendemain, puis la semaine suivante, le mois suivant, l'année suivante, aujourd'hui. Soyons honnêtes et reconnaissons que nous ressemblons vaguement à ce que nous étions hier ou avant-hier. Ou alors les changements sont tellement lents, tout comme l'âge, ils sont tellement discrets que d'un jour sur l'autre, on pourrait pas voir la différence. Et que le vrai test, en fait, c'est le 10 Years Challenge ou l'application FaceApp, ce qui nous vieillit de 10 ans ou de 20 ans, 30 ans d'un coup. Mais même là, on reconnaît bien souvent les gens. Beaucoup de changements pour pas beaucoup de différence. On est au milieu de l'été, bientôt le redémarrage de l'activité. Une nouvelle rentrée. Mais c'est pourtant pas le premier été. C'est pas votre première rentrée. Peut-être que pour certains, ici, c'est une nouvelle église. Mais est-ce qu'on n'y retrouve pas à peu près les mêmes choses que dans d'autres églises, globalement? Peut-être que pour certains, c'est un nouveau travail, une nouvelle carrière, de nouvelles études, une nouvelle phase. Est-ce que c'est vraiment tout nouveau, tout ça? Ou est-ce que dans le fond, ces choses se ressemblent? Et mes luttes, et mes péchés, est-ce qu'ils ne ressemblent pas à ceux d'hier? Alors, en quoi est-ce que ce verset pourrait nous encourager si tout de notre vie, bien terre à terre, nous dit le contraire? Eh bien, tout simplement, parce que, dès demain, il y a une nouvelle semaine à vivre. Il y a un nouveau jour devant vous. Peu importe l'échec ou l'inaccomplissement de la veille, chaque jour est la grâce renouvelée de Dieu, une opportunité pour être cette nouvelle créature. Cette nouveauté de vie, nous avons encore la chance incroyable de la vivre ce jour. La patience de Dieu est telle qu'il est prêt à nous supporter encore un jour de plus. Nous pouvons aujourd'hui encore, être cette nouvelle créature et laisser au passé tout le reste. Quelle grâce inestimable! Soyons reconnaissants d'avoir un jour de plus. Un nouveau dimanche alors. Finalement, un dimanche unique. Il n'y aura jamais ce dimanche de nouveau. Qu'est-ce qu'on va en faire? Et si on saisissait cette opportunité unique pour nous repositionner devant Dieu? Et si on décidait de vivre cette nouveauté de vie un peu mieux encore aujourd'hui? Et si ce dimanche était un dimanche qui marquerait un nouveau départ? Oui, c'est possible. Dieu ouvre encore cette chance, là, maintenant, aujourd'hui. Ok, mais en quoi consiste cette nouvelle vie? On peut le lire dans la lettre de Paul aux Colossiens. Donc je vais demander la prochaine slide. Donc c'est des extraits. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Vous avez revêtu la nouvelle nature qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Notez la référence et lisez-la pour vous, parce qu'il y a une toute autre liste, il y a beaucoup d'autres choses dans ce texte. Donc ça, c'est le défi que je vous lance déjà, relisez les passages que j'ai cités. Il y a une liste des choses mauvaises à abandonner. Et il y a toutes les bonnes choses à pratiquer. En fait, ça pourrait ressembler à une liste de bonnes résolutions, généralement qu'on fait entre le 31 décembre et le 1er janvier, mais qu'on pourrait faire aussi avec la rentrée. C'est un début d'année, faisons une liste de bonnes résolutions, et c'est très bien. Le défi, c'est qu'en général, les bonnes résolutions, on les tient pas. Mais je vous répète, c'est quand même bien de la faire. J'imagine qu'on pourrait mettre notre propre liste par rapport à ce texte de défi, des choses qu'on aimerait changer, des domaines dans lesquels on aimerait progresser, des projets qu'on aimerait amener à terme, des comportements qu'on aimerait améliorer. Choisissez votre liste en écho à la liste de Paul. Je veux être plus patient avec mes enfants. Je veux travailler pour savoir demander pardon. Je veux être capable d'accepter d'avoir tort. Je veux m'éloigner de ce qui me tente chaque jour dans le péché. Je veux lire ma Bible et mieux apprendre à connaître Dieu. Je veux être plus reconnaissant et moins me plaindre. Je veux donner plus et arrêter de chercher à gagner plus. Je ne veux plus mentir, etc. Et comme si c'était le nouvel an aujourd'hui, faites votre liste de bonnes résolutions. Ne nous lassons jamais de nous engager devant Dieu. Nous ne nous lassons jamais de nous engager à vivre selon ses prescriptions. Quand bien même on n'y a pas réussi jusque-là. Quand bien même nous échouons. Quand bien même nous péchons. Aujourd'hui, vous pouvez encore décider de vivre comme une nouvelle créature. Déjà, la première raison, c'est parce que vous avez une nouvelle chance. C'est une nouvelle journée, comme je l'ai déjà expliqué. Mais ensuite, c'est parce que c'est pour cela que Christ est mort sur la croix. On va lire la slide suivante, si tu veux bien. Donc Colossiens 3, deuxième partie du verset 9 et 10. Car vous avez abandonné votre vieille nature avec ses habitudes et vous vous êtes revêtu de la nouvelle nature. Vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement. Et se revêtir, comme le dit Paul, de la nouvelle nature, ce n'est rien d'autre que de se revêtir de Christ lui-même. Ce n'est pas vous et votre belle volonté qui permettra d'être ressemblant à Christ. Revêtir cette nouvelle nature, ce n'est pas travailler très très fort pour que je sois comme Christ, c'est revêtir Christ. Et quand on y pense, la description de Paul colle très bien à la personne de Christ quand on a lu sur les autres versets. Cette nouvelle créature, nous le sommes déjà en devenir et nous le sommes déjà complètement en Christ. Paul le dit très bien ailleurs dans la lettre aux Romains. Au chapitre 6, versets 5 et 6, on peut mettre la slide après. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui. Notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et on va lire la slide d'après encore, 2 Corinthiens, versets 5 et 17 et le début de 18. Si quelqu'un est en Christ, on l'avait déjà lu au début, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Vous n'êtes pas capable d'être cette nouvelle nature, d'être cette nouvelle créature. Christ l'est. La mort et la résurrection de Christ, voilà ce qui nous permet de marcher en nouveauté de vie. Voilà ce qui nous libère de notre ancienne nature. Mais à quoi est-ce que je pourrais comparer le processus dans lequel Dieu nous embarque? Il y a une image assez récente, très personnelle. Le 1er mars, une nouvelle vie a commencé, celle de Philémon, notre premier enfant. Mais en fait, pour moi aussi, depuis le 1er mars, je suis devenu père. De fait, mon identité a définitivement changé. Je ne pourrai jamais plus ne pas être père. Je suis père. Pourtant, je ressemble beaucoup à qui j'étais quelques jours et quelques mois avant. Avec des cernes en plus, peut-être. Mieux encore, si je suis père, c'est fait. En réalité, chaque jour, j'apprends à être père. Non seulement parce que ça s'apprend, mais aussi parce que les situations changent et exigent de moi une évolution. Donc chaque jour que Dieu me donne, j'ai l'occasion de devenir père. Mais je le suis déjà, et pourtant pas encore complètement. De la même manière, nous sommes de nouvelles créatures parce que Dieu a, dans un temps marqué, tout accompli en Christ pour que je sois cette nouvelle créature. Et j'apprends chaque jour à vivre comme tel. Imaginons encore que j'accède à une nouvelle nationalité. Une nationalité rattachée à un beau pays. Beau et merveilleux. Une nationalité dont je peux être fier. Admettons que j'obtienne la nationalité américaine. Oui, je sais, vous pensiez tous à la Suisse. Ou à la France. Mais comme je suis déjà français, ben, je ne peux pas l'acquérir. Mais en obtenant la nationalité américaine, j'obtiendrai du même coup des privilèges et des devoirs. J'aurai un passeport et mon identité stipulera que je suis américain. Aux yeux de l'administration, je serai américain. Et j'aurai même une ligne réservée pour moi à la frontière. Mais le serais-je complètement ? Est-ce que je n'aurais pas de vieilles habitudes françaises encore présentes ? Où est le saucisson ? Par exemple, il peut y avoir aussi mon accent qui restera. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je vive sur place pour mieux apprendre et comprendre la culture, les codes, le droit, la langue, pour que je devienne complètement américain ? Notre vie de nouvelle créature n'est pas tant différente. Notre identité est assurée en Christ. Nous sommes de nouvelles créatures qui apprenons à vivre comme de nouvelles créatures. Il y a beaucoup de choses nouvelles à apprendre de cette nouvelle nature, de cette nouvelle identité. Et on peut souvent douter au regard de nos défaillances. Mais ce qui nous définit, c'est ce que Dieu dit de nous et pas ce que nous disons de nous-mêmes. La Bible nous dit explicitement que notre nature est en Christ et que nous ne sommes plus pécheurs. Ce que Dieu dit de nous doit définir notre identité. Cependant, tout comme pour la nationalité américaine, nous avons plein de choses à découvrir. Et quoi de mieux que de vivre ces valeurs, les valeurs de ce royaume, pour apprendre chaque jour un peu plus ? Quoi de mieux que de rentrer dans ce royaume pour apprendre à vivre comme enfant de Christ ? Quoi de mieux que d'autres personnes de cette nouvelle nationalité sur mon chemin ? Quoi de mieux que d'autres nouvelles créatures sur mon chemin ? Ou autrement dit, quel meilleur endroit que l'Église pour notre apprentissage ? Mais pouvons-nous réellement faire confiance à ces autres nouvelles créatures ? Parce que si elles me ressemblent, je sais combien elles sont faibles et certainement peu fiables. Peut-on faire confiance à ces autres nouvelles créatures ? Eh bien oui, car l'atout majeur de celle ou celui qui est en Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous apprend à nous revêtir de cette nouvelle nature. C'est lui qui nous apprend à nous habiller en quelque sorte. Et comme Jésus le dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, verset 13, « Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » L'Esprit nous conduit. Alors ayez confiance dans les autres chrétiens, pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'eux aussi, ils ont le Saint-Esprit. Rappelez-vous, quand Paul parle de se revêtir d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, je trouve personnellement que ça ressemble aussi étrangement à sa description du fruit de l'Esprit. En conclusion, soyons reconnaissants d'avoir un jour de plus à vivre en tant que nouvelle créature. Osons renouveler nos vœux à Dieu en ayant le regard porté sur l'œuvre merveilleuse de Christ. Christ qui est ce nouvel homme que nous sommes appelés à nous revêtir avec l'aide du Saint-Esprit. Notez que cet esprit est appelé consolateur, peut-être entre autres pour nous encourager à faire face à nos défaillances quand on est découragé. Il est aussi appelé esprit de vérité, peut-être entre autres pour nous rappeler qui nous sommes vraiment aux yeux du Père, des enfants rachetés qui font sa joie. C'est par amour que Dieu nous permet de devenir des créatures conformes à sa perfection, en Christ et avec son Saint-Esprit. Car si Dieu est attristé quand nous péchons et quand nous chutons, il est surtout fidèle pour nous relever et fier de nous quand nous nous repentons et quand nous nous levons encore et encore avec le désir de vivre comme Christ. Ainsi, les amis, nous pourrons vivre l'injonction de Paul dans la joie et l'espérance, qui dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, en nous souvenant que tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Je vais prier. Dieu, je suis reconnaissant pour la grâce de ce jour nouveau. Je veux m'engager devant toi à vivre en conformité à cette nouvelle nature. Je te remercie pour la mort et la résurrection de Christ qui nous permet tout cela. Et je veux te demander l'aide de ton esprit pour m'accompagner sur ce chemin d'apprentissage afin que je sois conforme à ta volonté. Et je prie ça avec cette joie et cette assurance que tu nous entends, que tu nous écoutes et que tu agis en notre faveur par la puissance de ton nom. Amen.